Bonjour, Olivier Ozaz, je suis médecin à la PASS de Besançon. Mon propos dans cette présentation va être de vous présenter un exemple de mouvement d'une PASS en direction des instances éthiques locales dans une idée d'amélioration de nos réflexions et du coup de nos pratiques quotidiennes. Donc, la PASS du CHU de Besançon existe depuis septembre 2000. Elle est constituée d'un demi-médecin, d'une demi-assistante sociale et d'une secrétaire. Tous trois, nous avons pris nos postes il y a environ un an et demi, et on a découvert ensemble la complexité des situations qu'on peut rencontrer dans les PASS. Cette complexité est liée aux patients, la barrière linguistique, culturelle et toutes les choses dont on a déjà parlé. Elle est liée aux conditions d'exercice au sein des PASS. En l'occurrence, nous, on n'a pas de psychologue, on n'a pas d'infirmière. Le budget dont vient parler, parler Amine. On a aussi des limitations en termes de compétences. Là, je pense par exemple à la législation qui est très complexe sur le droit des étrangers. Et elle est liée aussi au contexte général, avec une absence de référentiel, une absence de réflexion institutionnelle la plupart du temps, et aussi la rareté d'interlocuteurs vers qui se tourner quand on est dans des impasses. Je pense dans ce sens que la création de ce colloque et surtout la structuration des PASS peut être une réponse nécessaire. Cette complexité, elle est aussi et peut-être surtout dans les enjeux éthiques qui sous-tendent nos choix. Ces enjeux ne sont pas propres aux PASS, mais ils y présentent une intensité toute particulière. Les contraintes budgétaires deviennent palpables, nous forçant à imaginer des parcours de soins plus économes, mais pas toujours plus efficients. L'égal accès aux soins devient un objectif, non plus une réalité, un objectif qui demande de franchir des obstacles administratifs nombreux, là encore avec des moyens limités, et il faut aussi le dire, je pense, nous avons affaire à un certain ostracisme, voire parfois même un ostracisme certain. Face à ce constat, nous avons interpellé les structures locales de réflexion éthique pour interroger d'une part, mais également témoigner. Témoigner des tensions, des inégalités, des droits dits fondamentaux qui sont parfois bafoués et de nos dilemmes qui sont aussi éthiques que pragmatiques. Interroger pour nourrir notre réflexion, notre pratique, des apports. Et là, en l'occurrence, on a interrogé le comité d'éthique du CHU et l'espace éthique interrégional de Bourgogne-Franche-Comté. Le comité d'éthique de notre établissement nous a donné plusieurs pistes plutôt d'ordre pragmatique, témoigner de nos difficultés dans les rapports qu'on adresse à l'ARS, associer les réseaux de santé, les associations à la prise en charge, pratiquer une pédagogie vis-à-vis des confrères et augmenter le temps de formation des étudiants. On en a parlé ce matin. Actuellement, il y a 2 heures en cinquième année dans les études médicales qui concernent les personnes vulnérables. Enfin, il nous encourage dans notre volonté de mettre en place des démarches collégiales qui associent les médecins spécialistes, les médecins PASS, les assistantes sociales et le comité d'éthique dans les situations complexes, particulièrement dans le cas où les contraintes aboutiraient à une limitation préjudiciable des soins. Les réponses de l'espace éthique interrégional de Bourgogne-Franche-Comté nous apportent d'autres éléments de réflexion. En premier lieu, on nous rappelle que la plupart des approches éthiques convergent pour dire qu'il faut concentrer plus de moyens là où on observe plus de vulnérabilité. On voit qu'on en est assez loin. On sait également que la coexistence de circuits distincts pour une fonction semblable est source d'inégalité, et ce d'autant plus que s'exercent des pressions budgétaires. Les principes éthiques de justice distributive rappelle que tous doivent avoir accès à des soins d'égale qualité. Toutefois, il existe des différences importantes entre les personnes vues dans les PASS et la moyenne de la population française. L'histoire, les représentations, le rapport aux soins, à la santé sont tout autant de différences. Il n'est donc pas peut-être pertinent de rechercher une égalité stricte dans la prise en charge. L'objectif serait plutôt une amélioration substantielle des qualités d'accueil adaptées à ce public. Une attention particulière doit être portée aux projets thérapeutiques. Ici, plus qu'ailleurs, il doit prendre en compte les projets de vie. Et pour commencer, la couverture des besoins primaires, hébergement, alimentation, sécurité. Il faut permettre l'expression du principe d'autonomie du patient, qui parfois peut se retrouver entraîné dans une prise en charge médico-technique, génératrice d'illusions, qui amène certains patients à penser que l'on meurt mieux ici avec la médecine française que là-bas auprès des siens. On rappelle également qu'il faut lutter contre la tentation de considérer comme adaptés les moyens définis de manière minimaliste. Dans ce sens, la Convention d'Oviedo, récemment ratifiée, rappelle l'engagement des signataires de prendre les mesures appropriées pour un accès équitable aux soins. Dans le contexte économique actuel, il incombe donc aux responsables politiques de faire des choix et de les justifier. Enfin, nous est proposée la mise en place d'un réseau sentinelle de la précarité qui, en coordonnant les données issues de la pratique quotidienne, permettrait une analyse factuelle de cette précarité ainsi qu'une vigilance quant au risque de non-respect des droits humains de base. Nous allons continuer ces échanges, en particulier avec l'espace éthique de Bourgogne-Franche-Comté, afin d'approfondir ces questions. Nous voyons déjà, toutefois, qu'il ne s'agit pas là d'essayer d'obtenir des réponses simples ou applicables, mais bien de chercher quels sont les principes forts qui doivent nous animer dans nos décisions. Pour conclure, je dirais qu'il me semble que ces réponses sont à la fois très inspirées et assez loin de la pratique, à la fois très nécessaires, mais aussi insuffisantes. Merci.
Merci.